Bonjour et merci de nous retrouver aujourd'hui suite de notre rencontre avec Christophe et Hoche Duval.
Bonjour James.
Bonjour Christophe et Hoche Duval. Je rappelle que vous êtes conseiller d'État, metteur en scène, alors amateur de spectacles vivants. Et le 25 octobre 2017, paraît chez Arthège votre livre intitulé « Vous serez dans la joie, le coming out chrétien d'un haut fonctionnaire et quelques réflexions ». Vous dites dans votre livre, Christophe et Hoche Duval, on a parlé hier de l'État, parce que vous êtes conseiller d'État, et vous dites dans votre ouvrage, il y a un laïcisme, le laïcisme est la nouvelle religion d'État. C'est-à-dire que l'État devient une religion à part entière et régit nos consciences, comme l'a fait aussi l'Église catholique, en lien avec le royaume d'ailleurs.
Oui, alors évidemment, bien sûr, en disant ça, j'exprime une opinion tout à fait personnelle. Évidemment.
Mais vous le dites dans votre livre, donc elle n'est plus...
Oui,
personne ne voulait dire.
C'est pas oui, c'est, par c'est rapport,
Christophe et Juval, oui, rien voilà, à voir avec... C'est... Oui, vous séparez, oui.
L'État, tous les États... Et si on rejoint, bien sûr, puisque mon livre d'abord lit d'un engagement chrétien, d'une réflexion des évangiles plaqués à notre époque, tout État, finalement, lui-même est pris par une dimension théiste, celui d'une volonté de dominer. Et de dominer ses sujets, et ses sujets qui peuvent être d'ailleurs des citoyens, ça n'a strictement aucune importance. Le caractère démocratique ou non-démocratique dans cette histoire n'a pas grand sens. La démocratie, d'abord, ça n'est jamais atteint. C'est comme la sainteté.
C'est une finalité.
On ne l'atteint jamais. Donc, de toute façon, même parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de canons démocratiques. Nous ne sommes peut-être pas le nirvana non plus, la démocratie. Et donc, l'État français, c'est vrai, cette propension, on va dire, bicentenaire, de celui d'une substitution... aux consciences et à une forme d'autre spiritualité. Alors, bien sûr, Robespierre avait des tentations très théistes dans ce domaine, bon, qui se sont effondrées, mais ça reprend toujours. Ça reprend toujours d'une manière. Il faut substituer une opinion, éventuellement spirituelle ou religieuse, à une autre. Et le laïcisme qui a repris dans les années, on va dire, 80-90, est tout à fait caractéristique de cette pente, de cette évolution. Alors je crois effectivement que c'est un danger qui existe. Liberté de conscience aujourd'hui est une chose qui n'est pas acquise totalement, qu'il faut préserver, voire même qu'il faut reconquérir. Parce que forcément, et ça c'est vrai un peu aujourd'hui de tous les États modernes, mais c'est des États qui juridiquement sont omniprésents. Omniprésent. Il y a un rapport de...
400 000 normes,
oui,
vous dites,
voilà,
il y a 400 000 normes.
Alors je dis ça parce que c'est tiré d'un rapport du Sénat, où quand on lit bien le rapport dans toutes ces lignes, on n'arrive pas même à deviner comment ils sont arrivés à ce chiffre de dire qu'il y a en France 400 000 normes.
Oui, on ne le sait même pas combien il y en a.
En fait, on peut même plus le dire comment on sait. On sait l'épaisseur que prennent les codes mis les uns sur les autres. Et avec lequel on pourrait bâtir des maisons. Donc voilà, il y a ça, il y a donc un enchevêtrement juridique, une mainmise juridique, alors tout à fait démocratiquement décidée, votée, élaborée, contrôlée, etc. Ça ne change rien au fait qu'effectivement cette omniprésence de l'État est une donnée actualisée, je dis bien actualisée, de ce que j'appelle l'État mammon.
Alors, il faut rappeler voilà.
Mammon. Mammon, c'est évidemment, bien sûr, dans les évangiles, le rappel. Alors, c'est une expression qu'emploie Jésus, énigmatique, une expression araméenne qu'on a toujours du mal à comprendre
et à traduire.
Est-ce que c'est vraiment l'argent? Mais ça peut être tout, en vérité. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Mammon et Dieu. Et Mammon, en fait, c'est toutes les formes de domination de l'homme par l'homme, de l'homme sur l'homme. Voilà. Ça peut évidemment, à un moment donné, s'incarner dans le pouvoir ou dans l'argent, mais voilà. Et toute institution humaine a cette tentation-là d'être mammon, c'est-à-dire de se faire adorer comme Dieu, évidemment, comme Dieu. J'ai une autre formule aussi dans mon livre qui est de parler de l'État Jupiter.
Oui, alors voilà. Justement, oui, parce qu'on a un président jupitérien en plus.
Oui, alors là, je tiens à dire, et au moins
c'était avant que vous l'aviez écrit.
Mon auditeur est sans doute témoin et pourrait en témoigner. J'ai écrit ce livre. Entre 2015 et puis la fin du spectacle Yeshua, c'est-à-dire un peu juste après 2016. Et effectivement,
oui, ce qui s'est joué l'été 2016,
voilà,
hein,
le président, notre président de la République n'était pas du tout encore élu. Elle avait peut-être quitté l'Élysée de ses fonctions, ou de Bercy, ses fonctions de ministre, mais en tous les cas, il n'avait pas encore déclaré sa candidature. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des polémiques ou sur le fait qu'il s'apparenterait à Jupiter, ou on voudrait la parenté à Jupiter. Bon, donc voilà, l'état Jupiter, pour moi, c'était effectivement aussi la marque que dans le nouveau panthéon actuel, d'un panthéon qui a toujours existé et qui se cherche toujours à se rebaptiser ses noms de Dieu, bah l'État, évidemment, se divinise. Aujourd'hui, l'État se divinise, cherche à se diviniser. C'est une tentation absolue de l'État de se diviniser, d'envahir toute la sphère, y compris privée. Et donc, pour moi, l'État Jupiter, c'est c'est une formule qui montre ce caractère.
Vous dites même, nous sommes les esclaves citoyens d'un État Jupiter, d'un nouveau César échangeant les fouets de sa garde prétorienne pour les milliers de lois coercitives de ses fonctionnaires et de ses juges, armés de leurs 400 000 normes et de leurs 15 000 incriminations pénales pour en assurer l'exécution, mot bien choisi des juristes.
Eh oui, mais pourquoi je dis tout ça? D'abord parce que c'est simplement pour montrer que si on participe de l'idée, effectivement, que la vie humaine, malheureusement, est toujours affectée par ces trois fléaux du polythéisme, de l'esclavagisme et de l'anthropophagie, j'en tire comme conclusion que, de tout temps, les chrétiens, qui ne font que constater ça, sont aussi les premiers à en contester cet ordre établi. Sont les premiers dissidents et resteront toujours des dissidents. On restera toujours des dissidents contre la pauvreté. On restera toujours des dissidents contre la maltraitance des petits, des faibles. On restera toujours des dissidents contre l'esclavagisme, qu'il soit celui de l'époque des Romains, mais qu'il soit celui aussi des travailleurs immigrés d'aujourd'hui, ou des migrants.
Comment ne pas
comprendre le pape, je veux dire, quand il dénonce ça, c'est parce qu'il ne fait toujours que réactualiser les évangiles. Aujourd'hui, on aurait, on aurait une nouvelle mise en scène des évangiles à faire, eh ben on aurait quoi? On aurait les migrants, on aurait, ce serait pas la cananéenne, mais ce serait la bohémienne ou qu'il y a dans le métro, etc. Enfin, tout se réutilise toujours avec les choses de l'existant. Et l'esclavage n'a pas cessé.
Vous parliez des migrants, mais il y a aussi des personnes qui vivent un esclavagisme moderne parce qu'ils sont dans une précarité, CDD, intermittence.
Mais absolument, d'une certaine façon, et c'est bien pour ça que...
Et qui arrivent, et on le sait, hein, il y a plein de gens qui travaillent aujourd'hui qui n'arrivent pas à se loger. Il n'y a pas que les migrants, on parle des migrants, mais il y a aussi un esclavagisme qui ne se porte pas que sur l'étranger non plus.
Absolument, et c'est bien ce qui relie les critiques que fait le pape François sur l'économisme par rapport, effectivement... Voilà, là aussi l'économie mammon. On adore l'économie, et quelles que soient les conséquences et les ravages qu'elle peut faire, et au passage. Mais tout ça, évidemment, dans la joie. Parce que le chrétien ne peut être dissident que parce qu'il est joyeux de proposer et de montrer une autre voie et une autre dimension, un autre but.
Vous dites aussi que de cet état Jupiter qui a remplacé ses offrandes à Auguste par ses impôts républicains, 46% de la richesse nationale des petites fourmis citoyennes reversée à la queue leu-leu à la reine des fourmis. Vous faites un parallèle, c'est mieux que la dîme de la menthe, de la nette et du cumin dont on dit que les juifs au temps de Yeshua se plaignaient pourtant d'être écrasés sous leur poids. Les vénards, vous ajoutez. Mais ok, on a 46% effectivement qu'on reverse, mais on a des contreparties qu'ils n'avaient peut-être pas à l'époque. On a les routes, l'école... La sécurité sociale qui rembourse justement l'avortement dont on parlait hier, et tout ça, ça a un coût aussi. Bah, oui, on a peut-être moins à se plaindre quand même qu'à l'époque du Christ.
Il y a plein de choses sur lesquelles, évidemment, bien sûr, nous avons des bonus incroyables et incontestables de vivre à notre siècle. Hein. Je le dis aussi, là aussi en m'amusant, en disant que même certaines choses qui pourraient paraître peut-être comme normalement, à notre désavantage, il y a le divorce, il y a la cohabitation juvénile, etc. Je dis tout ça. Oui, mais tout ça, c'est un peu à cause de l'allongement de la durée de vie, c'est à cause de l'allongement des études. Tout ça nous vaudra peut-être quelques bonus, parce qu'il faut compenser, bien sûr, les évolutions de la vie, les évolutions du siècle dans lequel on est. Le bon Dieu, je suppose qu'il en est bien témoin, et il le voit bien. Et par rapport à Saint-Louis, qui s'est marié très jeune et a vécu très peu de temps avec son épouse, peut-être fidèlement, mais on a peut-être plus de mérite aujourd'hui, quelque part, dans les mariages chrétiens, qui durent.
À durer, hein, c'est ce, voilà. Oui, ce que vous voulez expliquer. Oui, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui, parce que si on se marie à 20 ans et qu'on meurt à 85 ou à 90, il faut pouvoir tenir, hein, avec le même partenaire. Hein. C'est ce que vous démontrez. Il y a une phrase qui est terrible. Vous dites, on ne dit pas non au système, sinon il vous broie. Et là, en lisant ça, je me suis dit, mais on est cuit alors. On est arrivé à un apogée de l'État, peut-être plus que, comme vous le disiez à l'époque, de par tout le système que nous en avons. On ne dit pas non au système, sinon il vous broie. Et vous parlez de Spartus d'ailleurs, hein. Il dit non au système, mais il est broyé.
Oui, effectivement, il est broyé. Le système, évidemment, ne supporte pas les dissidents. Ah, c'est... Mais Jésus est un dissident.
On voit la fin.
Le système.
On a vu la fin de Jésus, d'ailleurs.
Voilà, le système israélo-romain du 1er siècle, des années 30, n'a pas accepté ce dissident qui, effectivement, est venu dire ces quatre vérités, soit à l'église israélite de l'époque, qui, évidemment... comme on le sait, avait muté la loi pour en faire simplement des rites, et puis des Romains qui l'occupaient et qui étaient aussi les représentants du polythéisme. Voilà, donc, non, je dis simplement, un chrétien qui fait carrière, c'est un peu suspect, quoi, voilà. Ça dépend, alors, évidemment, sous Saint-Louis, un chrétien qui faisait carrière, ça ne posait pas de problème. On était dans une société chrétienne. Le constat, c'est de dire aujourd'hui qu'on n'est plus en société chrétienne, ça c'est clair. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est vrai que si dans une société non chrétienne, un chrétien fait carrière, on se demande s'il arrive à appliquer peut-être ce que Jésus nous a dit, alors qu'il faut te poser à différentes manières, mais je vous demande de porter votre croix. Voilà. Quelle est notre croix? Notre croix, c'est peut-être de dire non à certaines choses, de témoigner. Et puis sans doute pas, on ne demande pas à tout le monde de se faire crucifier, mais en tous les cas, ça invite à la réflexion. Voilà. Est-ce que porter sa croix, c'est encore une fois être passe-muraille, Alcazar, comme je l'ai expliqué dans mon livre, et puis faire carrière.
C'est pour ça que vous êtes dubitatif sur l'engagement des chrétiens en politique. Vous parlez des mouvements comme Poisson Rose, par exemple, Sens Commun, qui sont des émanations de la Manif pour tous, où il y a des chrétiens qui se sont dit, moi je ne veux plus être Alcazar, je ne veux plus me fondre dans le monde, je ne veux plus être un chrétien assisté, je veux redevenir un dissident, je vais m'engager en politique. Mais pour vous, de par le système politique, on est obligé de manger son chapeau à un moment donné, c'est ça?
Ce risque, effectivement, et là aussi, la politique peut être un mammon qui vous dévore en chronophagie, en illusion, à un moment donné aussi en compromission, et puis en service. Voilà. Bon, la politique, je la connais un peu, parce que je la côtoie, je l'ai traversée, etc. Donc je sais aussi le prix qu'elle a de dévotion, et puis souvent aussi, il faut bien le dire, d'inutilité. Hein. Nous, notre combat, il est train. Est-ce que c'est le rôle... Alors voilà, aujourd'hui, évidemment, je ne tiendrai peut-être pas les raisonnements de la même manière à différents siècles. Mais puisque je crois, un certain nombre de vos auditeurs peuvent peut-être partager ma conviction que nous ne sommes plus tout à fait dans une société christianisée, qu'il y a donc on aura des comptes à rendre, hein, d'avoir éventuellement participé à re-christianiser ou à laisser filer. Et donc aujourd'hui, je crois effectivement que cette belle génération de jeunes qui croient que c'est par la politique qu'ils vont changer les choses ou qu'ils vont re-christianiser sont à mon avis dans l'erreur. La priorité des priorités, c'est effectivement de reprendre notre travail d'évangélisation, de témoin du Christ. Les premiers chrétiens ne se sont pas intéressés quelque part à l'ordre de la cité. Saint Paul et Saint Pierre ont dit « vous devez obéir aux magistrats de vos villes, dans la mesure d'ailleurs où ils ne sont pas des tyrans ». Mais il n'aura pas dit « allez, faites de la politique, essayez de remplacer les tribuns au Sénat romain ». Non, on était dans un autre rôle. Et finalement, quelque part, c'est ce rôle de témoin qui a porté ses fruits pour améliorer les lois civiles et politiques en les civilisant, en les améliorant, en les humanisant.
Parce que finalement, cette poignée de chrétiens a renversé un État surpuissant qui était l'État romain, on ne le dit jamais assez. Mais sans armes, sans guerre, ils sont une poignée au départ. Mais un État romain, ne l'oublions pas, hyper puissant.
Mais c'est un défi inimaginable.
Si on réfléchit bien, c'est quand même assez impressionnant.
C'est pour ça déjà que c'est un défi qui est tellement surhumain qu'évidemment, pour tout chrétien, il a comme clé de lecture que Dieu a donné un coup de main. Voilà. Parce que humainement, ce qui a été fait est impossible.
Si on
impossible.
Regarde l'histoire.
Voilà. Impossible.
Ouais.
Impossible. Mmh. Impossible. Comment cette poignée, pas une poignée, c'est même conceptuellement inimaginable. Voilà. Je trouve d'ailleurs que les historiens ne s'y pensent pas assez, le magnifique ne le montrent pas assez, ne mettent pas assez en valeur. Bon.
Oui, quelle est la bascule à un moment donné qui fait que cet état se renverse.
Mais ça, c'est toujours possible. Mmh. Ça, c'est toujours possible. En fait, ce n'est possible que grâce à la foi. Grâce à la foi. Voilà. Grâce à la foi chevillée. Et les premiers chrétiens ont eu une foi chevillée au corps, véritablement. Bon. Et on l'a moins aujourd'hui. Que nos ancêtres.
Et pourtant, on
ne
risque pas de terminer mangé par les lions dans une arène.
Non, on ne risque pas ça, mais on est déjà même, on part sur de meilleures bases. On est quand même 4 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus nombreux qu'eux, dès le départ. Imaginez la poignée de chrétiens à Corinthe autour de Saint-Paul, c'est inimaginable. Bon, on est descendant d'eux. Mmh. La Grèce, déjà, est christianisée par eux, etc. Et on arrive à eux. Et aujourd'hui bah évidemment, bien sûr, on a quand même plus de moyens. Même quand on pense à tous ces moyens technologiques.
Oui, parler du chrétien Wi-Fi, l'Internet.
Oui. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? On est des chrétiens Wi-Fi. C'est bon. Et donc, il suffit de cliquer sur notre téléphone portable. On a l'évangile traduit en 46 000 langues.
On l'a au quotidien, l'évangile.
On comprend plus de choses. Il y a un mot qu'on ne comprend pas, on cherche, on le trouve. Trinité, tac, on trouve les explications des pères de l'Église. On n'a pas tout ce qu'avait, mais imaginez, tout ce qu'avait... le pecno de Corinthe et qui écoute sur l'agora Saint Paul et qui lui est imbibé aussi de conviction et de certitude. On lui renverse la table de tous les philosophes grecs, peu s'en faut, ou de tous les tout le panthéon grec et on lui dit non, c'est un crucifié qui etc. Et nous aujourd'hui, donc que fait-on?
On n'agit pas assez et vous dites aussi on n'est pas assez visible. Et vous rendez hommage, quelque part, dans votre livre, Christophe Hoche Duval, au voile chez les musulmanes. Pour vous, c'est un acte de foi, ça ne vous pose pas problème.
Mais moi,
une revendication identitaire pour vous. C'est vraiment une revendication de la foi, le voile.
Il ne me gêne absolument pas, d'abord, d'être iconoclaste. Je suis volontiers à contre-courant de la pensée unique, et même de cette pensée unique qui est islamophobe, voilà.
Parce que pour vous, dire qu'on est contre le voile, là, vous rejoignez la pensée unique. Si je dis que si quelqu'un dit qu'il est contre le voile, pour vous, c'est islamophobe.
Non, j'ai une formule. Alors, de dire que j'ai écrit ce chapitre qui s'appelle « Femme musulmane, chapeau bas », je l'ai écrit avant les attentats de Charlie, etc.
Mais vous dites que vous changez...
J'ai pas voulu en changer une seule virgule parce que je me suis dit, si je change une virgule... En quoi ces événements qui se sont produits vont influencer ou pas ma réflexion? Ma réflexion, c'est d'abord d'être admiratif. Enfin, j'étais admiratif et je suis admiratif des militants LGBT.
On en parlait hier.
Ouais, je dis parce que je crois qu'ils ont le courage de leur conviction, presque équipolante à une religion. Et je suis admiratif aussi des jeunes femmes musulmanes qu'on voit voiler, que j'ai vu progressivement se faire voiler elles-mêmes, par elles-mêmes. Hein, dans les années 80, on voyait pratiquement pas de femmes musulmanes voilées à Paris. Je raconte comme anecdote que j'allais souvent à Bruxelles pour le travail et je voyais commencer à apparaître ces femmes voilées à Bruxelles avant même qu'elles existaient à Paris. Bon, après, ça fait tache d'huile. Et bien sûr que c'est un acte de foi, mais imaginez une seconde que dans les évangiles, Dieu soit loué, car ce ne sont pas ces rites pharisiens, quelque part, que notre foi nous a inculqué et que Jésus nous a inculqué. Mais imaginez une seconde que les évangiles aient fait ce genre de prescription. Combien de jeunes chrétiennes aujourd'hui continueraient à affirmer leur foi par un verset des évangiles qui disent « la femme doit être voilée » ? Donc je dis de l'autre côté, ben oui, je suis admiratif du courage qu'elles ont, parce qu'elles en ont eu à une certaine époque. Dans les années 80, mettre le voile pour les jeunes filles qui allaient au collège... C'est équivalent au courage qu'ont eu les jeunes chrétiennes qui, à Rome, bravaient l'ordre établi en se dessinant un poisson sur la toge.
Donc pour vous, on n'est pas assez visible, on aurait les moyens, quoi. Il faudrait quoi pour que le chrétien soit plus visible? Parce qu'en fait, si je comprends bien ce que vous dites, Christophe Hoche Duval, c'est plutôt que de se plaindre qu'il y a trop de voiles dans les rues, il faudrait que déjà le chrétien, celui qui est chrétien, qui se dit chrétien et qui se vit chrétien, soit déjà plus visible.
Ben oui, plus visible, bien sûr, parce que c'est comme ça aussi qu'on témoigne. Mmh. Bon,
Donc, bien il faudrait sûr. Des grands crucifix, par exemple.
Non, il ne faudrait certainement pas des grands crucifix. Non, mais je donne des exemples tout à fait anecdotiques et autres. Je dis, tiens, pourquoi pas. Pourquoi les prêtres ne nous encourageraient-ils pas à faire devant les paroisses, devant les pervis d'église, des permanences, peut-être le Saint-Sacrement exposé à l'extérieur.
Des processions.
Pourquoi des statues de saints avec leurs photos fortes ne sont pas à l'extérieur.
Des spectacles vivants devant les parvis.
Des processions. Alors les processions, on a... Imaginez par exemple quelque chose comme la fête Dieu autrefois, du temps de nos grands-parents. Les fêtes Dieu, c'était effectivement sortir dehors avec les bannières, les statues, les saints, et puis faire une procession dans la rue, dans la campagne ou autre. Bon, on a reculé complètement de l'espace public. Si bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, on réinventerait ces processions dans l'espace public, ça poserait des questions juridiques. Parce que tout droit perdu est un droit à reconquérir, hein. Et cette reconquête n'est jamais simple. Parce que du coup, alors à ce moment-là, il y a les personnes laïcistes, il y a les personnes musulmanes qui disent « mais pourquoi ?» etc. Or, c'était naturel. Et si on ne vient pas, quelque part, à cette reconquête, mais on abandonne complètement notre rôle de témoignage de foi. Et donc, j'aspire à ce qu'on retrouve des formes d'évangélisation de rue. Alors, moi, mes tripes et mon charisme, c'est plutôt effectivement le spectacle.
Alors, le spectacle vivant. Le spectacle vivant. Parce qu'au départ, vous avez fait des spectacles sur Richard Coeur de Lyon, par exemple. Bon, il y a un aspect chrétien, mais vous êtes allé beaucoup plus loin à un moment donné, puisque votre dernier spectacle, qui était joué par un musulman, Mohamed Mach, que j'ai reçu d'ailleurs dans cette émission, hein, puisqu'il est de confession musulmane, et c'est lui que vous avez choisi pour jouer le rôle de Yeshua. Le spectacle vivant, au départ, quand vous avez choisi, vous l'avez dit, hein, vous êtes metteur en scène amateur, c'est pas votre premier métier, c'était pas forcément d'abord pour évangéliser, pour vous, le spectacle vivant.
Mais pas du tout même, d'ailleurs. Pas du tout.
Parce que vous étiez chrétien à Calcazère à l'époque.
J'étais complètement chrétien à Calcazère, et même quand j'ai fait du spectacle, je n'avais aucune conscience d'être chrétien. Je faisais simplement... Voilà, j'avais ce goût qui est venu, j'allais dire, un jour je vais au Puy du Fou et je suis subjugué par café Philippe de Villiers avec le Puy du Fou. Et donc je me dis, vraiment, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer là-dedans. J'aime le théâtre, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et effectivement, je me suis lancé dans des spectacles, on va dire... pour l'expression un peu à caractère ciné-scénique, mais très théâtralisé, c'est-à-dire avec des comédiens qui disent leur texte, qui apprennent leur texte, avec une mise en scène. Et donc, je me suis monté dans des spectacles historiques, voilà, qui ont l'histoire comme matériau. Et puis un jour, à partir de ce déclic que j'ai raconté, de 2012-2013, je me dis, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie j'ai un métier, d'accord, mais bon, voilà, je vais aller à la retraite. Qu'est-ce que j'en aurais fait de plus que d'avoir servi mon travail? Je fais du spectacle, mais finalement, c'est des spectacles pour qui, pourquoi? Pour amuser la galerie. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un plus important à servir? Et c'est là où je me suis dit, moi, je ne sais pas quoi faire d'autre que dans mon métier, faire bien mon métier, mais peut-être aussi par le spectacle amateur que je fais, laissons tomber le théâtre classique, laissons tomber les Richard Coeur de Lyon et Napoléon et autres personnages historiques que je me suis amusé à mettre en scène et à faire interpréter par des comédiens. Et voilà, le plus grand à jouer, le plus grand à servir, c'est Jésus. Donc faisons du spectacle sur Jésus.
Pour évangéliser, là, pour le coup.
Pour évangéliser, moi, c'est évidemment forcément ma petite idée que j'ai à la tête. Mais je vais vous dire, j'ai monté un spectacle qui s'appelait Yeshua.
Donc le nom de Jésus en araméen.
Le nom de Jésus en araméen. Si j'ai le temps, j'expliquerai pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Mais on jouait dans ce spectacle, à l'appui du fou, on va dire, des comédiens, des acteurs, qui étaient non chrétiens. Et comme vous l'avez dit, j'ai proposé le rôle de Jésus à un musulman.
Mohamed Mach.
Voilà. Donc ces acteurs, eux, ils n'ont pas forcément conscience d'évangéliser. Ils jouent d'abord un rôle d'une pièce de théâtre. Voilà. Mais moi, je crois que le public qui voit, qui revoit, qui découvre peut-être même pour la première fois les évangiles, d'une part, les évangiles joués de manière théâtrale, oui, eux, peut-être, il en restera quelque chose. Je mets du levain dans la pâte.
Vous semez, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est ça, évangéliser.
Après, c'est à d'autres de faire germer. Hein, c'est le bon Dieu qui doit s'y mettre. Mais il a besoin de petites mains de boulanger comme nous pour les mettre du levain dans la pâte.
Est-ce que vous dites qu'il faut même évangéliser les musulmans ?
Et bien sûr qu'il faut évangéliser les musulmans.
Mais c'est penser, et vouloir évangéliser un musulman, c'est penser détenir la vérité, la vérité. Si je décide d'aller évangéliser un musulman, c'est que je pense en moi détenir la vérité. Si et que lui est dans le mensonge.
Mais si nous disons ça, nous pouvons renier de suite l'ensemble des premiers chrétiens de Rome qui ont, à l'égard desquels, on pouvait leur dire, mais attendez, mais de quoi vous m'interdisez de croire en Jupiter, en Zeus, hein, qui est le même d'ailleurs, ou en Dionysos ou en autre dieu? C'était pareil. Eh bien, leur devoir était de convertir les adeptes de Jupiter.
Merci beaucoup, Christophe Eoch Duval. On va se retrouver demain.
Merci.
Pour la troisième et dernière partie. Troisième, dernière partie avec vous, Christophe Eoch Duval. Et troisième et dernière partie définitive des dieux dans tout ça. On se retrouve demain. Je rappelle que, Christophe Eoch Duval, que vous êtes conseiller d'État. Vous êtes metteur en scène de spectacles vivants. Le 25 octobre paraît chez Arthège votre livre intitulé « Vous serez dans la joie ».